Matière à penser, Frédéric Borns.
Matière à penser, animal-humain, 5 rencontres sur cette relation. Mais quelle relation entre animal et humain? Est-ce que c'est une opposition? Est-ce que c'est une identité? Est-ce que c'est une différence? Est-ce que c'est une responsabilité? Nous allons en parler pour la 5e et dernière conversation de la semaine avec Étienne Bimbenet. Matière à penser, ce animal humain, ce soir avec Étienne Bimbenet, professeur de philosophie à l'université Bordeaux-Montaigne, qui a publié récemment, parmi d'autres ouvrages, Le complexe des trois singes, au seuil, sous-titré Essai sur l'animalité humaine. Bonsoir Étienne Bimbenet.
Bonsoir Frédéric Worms.
Merci beaucoup d'être venu ce soir pour parler de l'animal humain ou animalité humaine. On verra comment il faut jouer sur ces deux mots. En couverture de votre livre, Étienne Bimbenet, avec comme titre Le complexe des trois singes, il y a un singe qui se ferme, qui s'interdit de parler. Et à côté, on imagine, c'est peut-être dans un temple à Kyoto ou à Tokyo, vous expliquez que c'est une figure récurrente. Il y a un autre singe qui se ferme les yeux et un autre singe qui se ferme les oreilles. Au fond, vous voulez indiquer quoi? C'est un déni, mais un déni, c'est pas un déni qui porte chez les singes, c'est plutôt un déni des humains que vous indiquez par cette image des trois singes, Étienne Bimbenet.
Oui, c'est une image, hein. C'est simplement une image des trois singes de la sagesse bouddhiste, dont l'un, en effet, se bouche les oreilles, l'autre s'interdit de rien dire et l'autre de rien voir. Et c'est une image pour dire qu'aujourd'hui, sur la question animale, nous avons bien des préventions, préjugés, aveuglements, et que, en gros, j'ai serré en disant il y a trois fondamentaux. Ce dossier-là, c'est essentiellement trois types d'aveuglement, et d'où l'image.
Trois types d'interdits qu'on s'auto-impose, sauf que là, dans la légende bouddhiste, il s'agit de trois singes. Peut-être d'ailleurs, on pourra revenir sur la figure, l'imaginaire de l'animal ici. Mais vous, c'est exactement le contraire. En un sens, votre thèse, la thèse fondamentale du livre, et ce dont je pense on va parler, entre autres choses, c'est la manière dont les humains, aujourd'hui, pour vous, c'est une tendance dominante, presque idéologique, politique, mais aussi métaphysique, c'est ça que vous montrez. Les humains sont en train, massivement, de dénier leur différence avec l'animal ou avec les animaux. Alors pourquoi, à votre avis, aujourd'hui, il y aurait une toile de fond, comme ça, vous le décrivez un peu comme ça, c'est monté au premier plan? Pourquoi ce déni de la différence? Pourquoi est-ce que les humains cherchent à nier, dans votre perspective, la différence qui continuerait, d'après vous, de les séparer des animaux?
Je pense qu'on est en train de tourner une page lourdement métaphysique ou anthropocentrique, comme on dit, du rapport entre l'homme et l'animal. C'est-à-dire l'anthropocentrisme plaçait l'homme à part et au-dessus du reste des animaux. Et on est en train de tourner cette page, mais un peu rapidement.
Considérant, on la tourne fond, trop brutalement.
Voilà, même. On tord le bâton en sens inverse, du côté de ce que j'appelle un zoocentrisme, considérant qu'au fond, l'homme est un animal comme les autres et que nous sommes plus essentiellement animaux qu'humains, plus essentiellement vivant que rationnel. Et d'une certaine manière, on se complaît, je dirais, dans ce zoocentrisme, d'une manière assez frappante quand même, qui me frappe souvent, comme s'il y avait une forme d'évidence ou de doxa qui s'était installée dans les esprits. Et donc, j'essaye de comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui.
Et pour vous, il y a des raisons. Sans doute, il y a la montée du thème du vivant aujourd'hui, la question, beaucoup de raisons scientifiques, au fond, une interrogation sur la continuité ou la discontinuité homme-animal, il y a des raisons philosophiques, mais au fond, cette image de l'interdit, là, les humains qui s'interdiraient de voir, entendre et parler, ça prouve qu'il y a peut-être un interdit politique aussi. Est-ce qu'il y a derrière ça, d'après vous, la relation homme-animal, c'est, pour vous, c'est pas seulement un objet théorique, on a l'impression qu'il y a un enjeu pratique,
un enjeu
politique. Très, très concret, très urgent même.
Oui, c'est vrai. D'ailleurs, j'ai mis en couverture plutôt le singe qui s'interdit de
parler. Vous avez choisi celui qui se ferme la bouche. Ouais.
Absolument, parce qu'en effet, je crois que le fond peut-être le plus viscéral de cette question, vous avez tout à fait raison, c'est un fond politique ou moral, c'est-à-dire s'interdire d'offenser l'animal. C'est-à-dire une différence trop grande, une différence trop radicale offenserait l'animal, risquerait de nous faire renouer avec l'anthropocentrisme d'antan. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, nous avons du mal avec les différences trop radicales. Qui risquerait le pire à l'égard de celui qui est de l'autre côté de la barrière. Il y a un mot d'ailleurs qui dit ça assez bien, hein, cette différence qui nuisible en quelque sorte, cette différence qui autorise la malfaisance, c'est le mot de discrimination. Mm-hmm. Hein, c'est un mot qui dit à la fois la différence et en même temps le crime en quelque sorte. Alors
pour vous aujourd'hui, il y a pour certains, disons, toute différence est automatiquement une discrimination et donc doit être condamnée.
On ne peut pas assumer
la différence sans tomber dans la discrimination.
Moi, je pense qu'il y a une sensibilité d'époque qui vraiment s'installe de manière assez douce en quelque sorte dans les esprits sur différer, se distinguer, catégoriser, etc., sont des mots plus tranchants qu'ils n'ont été naguère, et on a du mal avec ces différences radicales, et je pense qu'on est en train de s'installer dans ces paysages en pente douce, hein, comme on dit, c'est-à-dire ces grands continuums entre humains et non-vivants, ces grandes hybridations qui sont d'une certaine manière plus confortables intellectuellement et moralement, parce qu'elles font de nous, des humains et des non-humains, les habitants d'une même communauté. C'est, je dirais, plus confortable sans doute que de catégoriser, de rappeler qu'il y a tout de même des différences forte entre humain et non humain, par exemple.
Alors, Étienne Bemnet, il y a plusieurs moments très, très inattendus dans le livre. Quand vous, quand vous débusquez des présupposés qui vous semblent sous-tendre le déni ou le refus de la différence anthropologique, la différence entre l'homme et l'animal, il y a par exemple un moment où vous dites que sur le fond de ce continuisme que vous critiquez, on en vient aussi à dénier la différence sexuelle. Enfin, pour vous, le déni, le refus d'une différenciation sexuelle, disons binaire, masculin-féminin, disons, hein, que peut-être pour vous, on est obligé de maintenir, ne serait-ce que parce que c'est comme ça que fonctionne la procréation. Pour vous, la critique de cette différenciation au nom d'une diversité sans rupture, c'est le même genre de présupposé que pour homme animal ?
Je dirais, alors c'est évidemment un dossier différent.
C'est un point particulier de votre démonstration.
Mais oui, enfin, c'est une trentaine de pages en effet.
Enjeux communs pour vous.
Oui, parce qu'en effet, j'essaie de repérer la même attitude en quelque sorte. Que je trouve finalement assez confortable, mais peut-être un peu fausse, et qu'on repère en effet du côté d'un certain féminisme, alors radicalisé, c'est-à-dire que le féminisme, je dirais jusqu'aux années 70, distingue entre le sexe biologiquement donné, et dans lequel s'établit une forme de différence entre le masculin et le féminin, et le genre socialement construit. Et il se trouve qu'il y a un moment de radicalisation du féminisme, qui correspond à ce qu'on appelle aujourd'hui les gender studies, ou la théorie queer, hein, qui est une des pointes les plus avancées des gender studies, et qui dit non seulement le genre est socialement construit et donc on peut le déconstruire, mais même le sexe biologique, l'opposition du masculin et du féminin mérite d'être déconstruite.
C'est même pas seulement de la construction sociale qu'il faudrait défaire, Étienne Bemnet, il y a aussi des gens comme Thierry Hoquet, que vous citez à plusieurs reprises, qui disent c'est le biologique lui-même n'est pas binaire, finalement c'est pas une déconstruction du social, c'est la science du vivant elle-même, ce qui d'ailleurs rejoint la question de l'animalité, qui nous indique que il y a des modalités compliquées de la sexualité, il y a des humains qui sont intersexes, il y a toutes sortes de modalités biologiques de la sexualité, et c'est au nom de cette diversité biologique qu'on nie la différence sexuelle. Donc.
Absolument, oui. C'est-à-dire la bicatégorisation masculin-féminin apparaît un petit peu lourdement métaphysique, un petit peu enfermante, et il est plus simple de se donner, en effet, quelque chose comme une grande zoologie queer dans laquelle on apercevra toutes sortes de sexualités diverses, les chauves-souris de Malaisie qui, les mâles allaitent eux-mêmes leurs enfants, l'hippocampe porte lui-même ses enfants, etc. Toutes sortes de sexualités diverses et non hétérosexuelle, et la conclusion c'est que au fond l'hétérosexualité à visée reproductrice n'est pas une norme vitale, et que au fond ce qui prévaut c'est une grande variété de cas, et tout est différent partout, etc. Et je trouve que ce regard sur la biologie qui veut finalement se défaire d'une différence trop grosse, trop grande, un peu enfermante entre le masculin et le féminin. Ce regard très touristique sur la biologie. Regardez, c'est différent partout. Regardez, c'est la diversité.
Relativisant, au fond.
Et très relativisant. Ouais. Ce regard me semble un petit peu éloigné, mais au mauvais sens du terme. C'est-à-dire que quand on s'approche du biologique dans ses fonctions, on aperçoit qu'il y a, par exemple, chez les mammifères que nous sommes, une catégorisation très fortement binaire qui fait que la distinction mâle-femelle correspond à une visée reproductrice. Qu'elle est là, qu'elle est une norme vitale. Alors, il faut immédiatement préciser, quand on a dit cela, quand on a dit qu'il y avait du masculin et du féminin avec une visée reproductrice dans le biologique, il faut immédiatement préciser.
En tout cas, chez certaines espèces. Parce que
mais chez notre espèce,
en tout cas, chez les humains, chez les vivants humains que nous sommes.
Chez les mammifères
vous,
que nous
aussi,
sommes.
Nous sommes des vivants humains, pour
absolument.
Vous, d'ailleurs. Mais on ça, va il faut, le redire au passage, mais c'est quand
mais,
même...
Mais il faut rappeler que c'est là, et que bah, une grossesse non désirée, c'est du biologique qui s'impose, qu'une fertilité subie, c'est, ça peut être un drame, etc. Donc, la fonction reproductrice, c'est raté.
Le recours à un géniteur, si on n'a pas de...
Absolument.
De masculin
par
dans
exemple.
Le désir de procréation, disons. Enfin, nous rappelle en effet que la biologie a quand même des règles. Mais pour vous, Étienne Bimbenet, finalement, malgré tout, c'est pas du côté de la biologie que vous cherchez votre principal appui, même si vous pouvez montrer que ceux qui invoquent le biologique font leur choix, finalement. C'est moins un tourisme qu'une sélectivité du regard. Mais vous maintenez l'idée, surtout, au long du livre, que la différence humaine, elle est pas seulement dans le biologique, elle nous fait sortir du simple biologique vers le culturel, le symbolique, le social. Vous maintenez un peu cette dualité, finalement.
Absolument. Alors, juste pour terminer
oui,
sur la question du masculin et du féminin, parce que c'est une question
d'accord.
brûlante, et c'est qu'une fois qu'on a dit qu'il y avait des normes biologiques, il faut bien préciser que la nature, en aucune raison, ne saurait faire loi dans un monde humain. Nous sommes des êtres politiquement libres d'assumer nos choix, ce qui en effet prépare votre question. Mais ça veut dire qu'une fois qu'on sait qu'il y a en effet une norme biologique de reproduction hétérosexuelle, ben on en fait ce qu'on veut. Elle est absolument pas contraignante dans l'ordre des sociétés humaines. On n'a absolument pas à subir la nature et on en fait politiquement ce qu'on veut. Vous voyez ce que je veux dire?
Et
donc, il y a des normes biologiques, mais ensuite, on construit politiquement ce qu'on veut en termes de reproduction. Et ça, c'est le second volet, si vous voulez, de la démonstration.
Alors, évidemment, ce qu'on veut au sens où on entre dans le domaine de la liberté, de la culture, de la loi, qui est pour vous, qui fait partie du domaine humain. Mais l'une des questions que j'avais envie de vous poser un peu plus loin dans la conversation, mais on peut déjà la glisser là, c'est que malgré tout, il faut faire des différences aussi entre les actions humaines. Par exemple, si à partir de cette dualité du masculin et du féminin, on fonde une hiérarchie, voire une domination d'un sexe sur l'autre, du masculin sur le féminin, ou bien au contraire, on revendique une égalité, c'est pas tout à fait le même usage du biologique.
Et donc, en effet, c'est là que la
entre les vivants humains, il y a aussi du positif et il y a aussi du négatif.
Absolument, et c'est là que la politique a son autonomie, et c'est là qu'elle dispose du naturel pour dire non, nous ne voulons pas de cette...
Mais quel va être, Étienne Bimbenet, le critère de ce qui est juste en politique et en éthique, si c'est pas la vie, si c'est pas entre le vital et le mortel, si, par exemple, les hommes, au sens masculin du terme, dominent des autres humains que sont les femmes au nom de cette différence sexuelle, est-ce que c'est pas encore du pouvoir vital? Est-ce que pour vous, on passe vraiment radicalement de la vie à autre chose que la vie, ou bien est-ce qu'il y a dans la vie morale, humaine, sociale, politique, est-ce que c'est pas encore du vivant qu'il s'agit?
Alors, j'assume d'être assez dualiste, parce que je vois bien que vous allez faire une forme de continuisme. Le biologique.
Ou vers un autre type de différence, mais
oui,
en
plus
effet,
douce, je dirais,
avec
effet
la vie,
plus douce.
Sans quitter la question de la vie, en tout cas.
Oui, j'entends bien, mais alors moi, ce qui m'apparaît assez fortement, c'est que le politique se laisse structurer par la parole, davantage que par un donné vital, et que cette parole, elle est foncièrement égalisatrice, c'est-à-dire que dès lors que nous parlons, dès lors que nous discutons, nous pouvons être deux ou trois ou cinq, nous pouvons être très divers, mais chacun a voix au chapitre, à égalité radicale avec les autres. Et quelle que soit la personne qui rentre dans cette pièce, quel que soit son visage, sa forme, quel que soit son âge, ce qu'il dira, dès lors qu'il le dira, sera pris en considération égale avec les autres. Et ça me semble très important parce que ça n'est pas du biologique. Et alors ensuite vient la négociation constante avec le biologique, mais il me semble que cet horizon rationnel, cet horizon de discussion rationnelle, tranche en effet avec le donné biologique.
Alors, Étienne Bimbenet, cette thèse d'une dualité qui fait passer du biologique au rationnel, vous l'aviez déjà évoqué dans deux livres précédents, hein, L'animal que je ne suis plus, qui était assez clair aussi en parodiant et en critiquant un titre d'un ouvrage de Jacques Derrida, et puis L'invention du réalisme, qui était aussi justement l'accès à une connaissance objective du monde, par-delà, disons, l'appartenance vitale à ce monde. Mais puisqu'on est déjà sur cette question de l'humain dans le rationnel et le langage, quand même, Étienne Bimbenet, quand, par exemple, on se sert du langage pour insulter ou quand on s'en sert pour aimer, c'est pas tout à fait la même chose. Les effets du langage restent entièrement vitaux, aussi rationnel soit-il dans sa nature technique, disons, comme ce micro ou ces lunettes qui sont des objets techniques. Les mots bien sûr, nous donnent une connaissance du monde, mais peuvent aussi servir des interactions vitales. Si j'appelle à la guerre ou si j'appelle à la paix, c'est pas tout à fait neutre vitalement.
Vous rappelez, vous avez bien raison de le faire, Frédéric Worms, que nous sommes des vivants et que nous le sommes jusque dans les actes les plus rationnels, les plus langagiers, les plus intellectuels. Nous restons des vivants, qu'une conversation reste, par exemple, implicitement conflictuelle. Idéalement conçue, cette conversation consiste à se dire quel est le meilleur point de vue indépendamment de ce que je pense. Donc, elle est idéalement conçue par le fait d'élargir son opinion. Donc ça, c'est la vertueuse conversation.
Il y a une visée universelle, comme vous le rappelez, à juste titre aussi.
Universalisante, qui aimante, qui anime les discussions. Mais nonobstant, on voit bien que ce n'est pas ainsi que les hommes vivent, comme on dit, et que discuter, c'est surtout vouloir avoir raison, et qu'il y a une forme d'égoïsme. Hegel l'avait très bien dit.
Hein. Ça peut aussi vouloir comprendre le point de vue de l'autre, mais...
Oui, mais je pense qu'il faut procéder de cet égoïsme vital et se dire que cet égoïsme vital qui est là, parce que nous sommes des vivants jusque dans nos discussions, est en même temps traversé par des vertus universalisantes et que c'est cette négociation de la raison et de la vie qui est intéressante, par exemple, dans une discussion, je trouve.
Oui, mais justement, pardon d'insister encore un peu là-dessus, en mettant le vital uniquement du côté du conflit, vous mettez la paix uniquement du côté de la raison, mais le vital peut aussi être du côté de ce qui nous constitue comme sujet, et même comme sujet dans la positivité de l'amour ou de la paix ou de l'amitié. C'est-à-dire, c'est aussi parce que d'autres ont pris soin de moi que j'arrive à parler comme un sujet. Et donc, la différence entre la vie et la raison n'est pas entre d'un côté la guerre vitale et de l'autre côté la paix rationnelle. Le vital comporte aussi du positif, malgré tout, Étienne Bamdet.
Alors, la vie telle que je la conçois au fond de manière assez simple, et je la conçois... d'une certaine manière, de manière phénoménologique, sous la forme d'un type de rapport au monde,
d'intentionnalité. Quelque chose qui se donne à nous à connaître. Ah non, la vie elle-même serait un rapport au monde.
Voilà, quel est le rapport au monde?
Comme pour la phénoménologie, la conscience est un rapport à autre chose qu'elle-même.
Absolument, c'est-à-dire si on s'interroge sur l'animalité, à mon avis, le mieux est d'interroger le type de rapport qu'il entretient avec son environnement.
D'accord.
Qu'est-ce que lui vit en première personne? Qu'est-ce que ce chien vit en première personne dans son environnement urbain, par exemple? Ça, c'est une question phénoménologique. D'accord. Quel est le type d'intentionnalité, de conscience qui structure son rapport au monde?
Ce qui implique une subjectivité de l'animal. Finalement.
Absolument. Et alors, s'il y a bien un sujet... bien davantage que vous et moi, qui ne cessons de nous désubjectiver en se parlant d'un à l'autre, etc. Mmh. S'il y a bien un sujet, c'est l'animal.
Mmh. Alors là, c'est vous lui daignez pas sa subjectivité, au contraire, vous lui daignez la capacité à accéder à l'objectivité, finalement.
C'est plutôt ça, en réalité. C'est cette capacité de se désubjectiver en allant visiter d'autres vies, de se décentrer en direction d'autres vies que la sienne, et pour aller visiter d'autres visions du monde que la sienne. Ça, je pense que là, il y a un acte spécifiquement humain et rationnel qui élargit en quelque sorte la vie. Mais ça veut dire que la vie animale en particulier, il faudrait la définir du côté d'un rapport au monde centré sur soi, d'un rapport au monde concerné par ce qui lui arrive. Un animal, d'une manière générale, il a un rapport essentiellement pratique et affectif à son environnement. Et ce qu'il voit, ce sont des choses à faire, ce sont des choses qui sont bonnes ou mauvaises pour lui. Et nous connaissons par cœur, si je puis dire, ou par corps même, ce rapport vital et pragmatique et affectif au monde. Je pense qu'on procède de ça.
Il en reste quelque chose en nous.
Il en reste constamment quelque chose en nous.
Même si l'animal que vous n'êtes plus, vous l'êtes encore malgré tout un tout petit peu encore.
Non, mais on procède de ça, et je pense que ce matin dans mon lit, j'étais spécifiquement centré sur moi-même. J'étais un vivant, plus vivant que je ne le suis maintenant. Et ce soir. Et donc, ce qui est intéressant, c'est ce va-et-vient entre un concernement ou une forme d'égocentrisme vital qui est notre donnée première, en quelque sorte, notre condition première. Et puis, cet élargissement rationnel, langagier, qui fait que lorsque nous discutons les uns avec les autres, lorsque nous nous déclarons certaines choses les uns aux autres, lorsque nous montrons un spectacle aux autres, eh bien, nous nous décentrons en direction des autres et en direction d'un monde commun.
Pour vous, Étienne Bamdet, ce qui fait la différence anthropologique, la différence spécifique des humains, c'est cette capacité à accéder à l'universel, c'est un ensemble de capacités malgré tout. Je ne sais pas si vous reprenez comme ça l'ancienne thématique du propre de l'homme finalement, parmi les vivants, parmi les espèces, il y aurait des propres de l'homme malgré tout. Je ne sais pas si vous reprenez ce terme précisément, mais en tout cas, il y a quelque chose comme ça chez vous, et c'est essentiellement de l'ordre en effet de la visée de l'universel, mais pas seulement dans la connaissance, aussi dans la morale, peut-être dans l'esthétique, disons, sortir d'un enfermement dans soi vers une ouverture sur de l'absolu, de l'universel.
Absolument.
Ça crée une coupure pour vous, ça.
Oui, oui, ça crée une forme de coupure assez radicale. Alors, je ne peux pas faire autrement, si je puis dire. Malheureusement, j'ai un tempérament tel que je vois cette différence plus fortement que la continuité.
Et que du coup, j'assume. Je ne peux pas faire autrement aussi philosophiquement. C'est un principe pour vous.
Oui, mais c'est-à-dire qu'on fait avec ses pulsions. Hein. Le philosophe fait avec un tempérament qui est le sien, et puis il l'éclaircit, il le rationalise, il explicite une vie entière. Et je pense que je vais vivre une vie entière avec cette différence et essayer de l'acclimater le mieux possible et de la raisonner le mieux possible. Mais c'est vrai que je pars de là, en quelque sorte, de cet étonnement-là. C'est-à-dire, à la fois, nous sommes issus d'animaux, ou nous sommes un certain type d'animaux, bien sûr, hein, dans un horizon darwinien. Il faut penser cette filiation animale de l'homme, et elle est très importante à penser. Elle révolutionne notre vision de nous-mêmes. Mais l'étonnement profond, c'est que, étant un certain type d'animaux, nous vivions des vies si différentes.
Nous constatons empiriquement, en décrivant nos vies, qu'il y a un autre genre de rapport au monde qui apparaît. Ce rapport
absolument,
que vous décrivez
absolument.
Comme objectif, intersubjectif, mais
absolument.
Avec une ouverture sur l'universel. Alors, ce qu'il y a de très curieux à ce moment-là, Étienne Bamnet, puisque vous situez ces ouvertures humaines du côté de l'universel, c'est que vous ayez choisi pour jalonner cette conversation une chanson qui parle de nos affects et qui même les vitalise au sens polarisé, puisqu'ils peuvent être heureux ou malheureux.
Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit ouvrir ses bras, son ombre est celle d'une croix. Et quand il veut serrer son bonheur, il le broie. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour. Ressemble à ces soldats sans armes qu'on avait habillés pour un autre destin. À quoi peut leur servir de se lever matin? Eux qu'on retrouve au soir, désarmés incertains. Dites ces mots, ma vie, et retenez vos larmes. Il n'y a pas d'amour.
Matière à penser, Frédéric Worms.
Matière à penser, animal humain, ce soir avec Étienne Bimbenet, professeur de philosophie à l'université Bordeaux-Montaigne, auteur du Complexe des trois singes, entre autres livres, sous-titré Essai sur l'animalité humaine, où Étienne Bimbenet, vous défendez donc la singularité rationnelle des êtres humains parmi les vivants. Mais cette singularité rationnelle, vous venez de nous donner à entendre aussi que ces pauvres humains que nous sommes, ils sont aussi des êtres affectifs, et jusque dans l'amour, traversé par la polarité vitale, heureux, malheureux, il n'y a pas d'amour heureux, et je porte en moi cela comme un oiseau blessé. Étienne Bimbenet, est-ce que c'est quelque chose d'animal qui subsiste en nous, ou bien est-ce que c'est plutôt une vérité de l'humain, encore une spécificité de l'humain? Il n'y a pas d'amour heureux, est-ce que c'est pas aussi le propre des humains?
Alors oui, clairement, d'abord, je voudrais préciser que je trouve cette chanson très belle,
ah,
magnifique.
Vous l'avez choisie et je le partage votre avis.
C'est gentil, et que, quoi qu'on en dise, ce sera de toute façon un manteau d'idées un peu épais et lourd par rapport à ce qu'on vient d'entendre. Donc, bon, n'essayons pas de commenter.
Ce que vous allez dire, vous voulez dire?
Oui, ce que je vais dire n'aura.
Pas forcément. La philosophie est aussi importante que l'art pour penser tout ça.
Bon, essayons de ne pas être trop lourd en tout cas. Et ce que j'entends moi dans cette chanson, d'abord, c'est on pourrait être frappé par la généralité du propos un peu lourd. Et en fait, ça passe très bien parce que c'est une généralité. C'est une plainte, c'est une chanson très mélancolique et qui nous entretient d'une communauté mélancolique qui soude les humains les uns aux autres, et je trouve ça très beau. C'est Aragon, hein, les paroles, hein, c'est communiste 1946, hein, donc une forme de communisme mélancolique que je trouve très beau ici, et qui nous entretient en effet d'un amour malheureux, une espèce de détresse profonde, qui je pense en effet, alors vous parliez de vie et de raison, là en effet on est du côté de, bah, quelle est cette vie qui va produire la raison, qui va porter la raison, qui va être capable de faire sa place à des élargissements de soi en direction des autres, à de l'universel. Bah, c'est peut-être, et c'est une des réponses, hein, que font un certain nombre de philosophe, c'est peut-être une vie profondément blessée, affectée. On a commencé tous nus et pauvres, hein, comme dit Rousseau. Nous avons tous commencé étayés sur autrui, mais
nous sommes faibles, nous avons besoin de tout. C'est le début de la vie de Jean-Jacques
absolument,
Rousseau.
Oui, nous sommes nus et pauvres. Et le premier regard que nous portons sur les autres, c'est un regard d'amour fou, d'amour absolu. On procède de cet amour absolu. Il n'y a jamais d'amour heureux en comparaison de cette mesure absolue. Vous voyez,
c'est pas un manteau abstrait d'idées que vous avez posé dessus. C'est une thèse très précise. Étienne Bimbenet, donc vous dites depuis cette expérience souffrante, vivante, la spécificité de l'humain, c'est d'arriver à l'exprimer d'abord peut-être. Et puis c'est là où on retrouve vos thèses sur l'universel au fond comme coupure avec le vital. C'est que même dans l'art, un peu, vous voyez un appel universel. C'est-à-dire l'être humain qui chante, là, il n'est pas seulement un vivant qui souffre, il est un humain qui s'ouvre, au fond. Même dans sa souffrance, on reste humain par ce rapport à l'universel, d'après vous.
Mais parce que je pense que ce rapport aux autres, alors qu'on pourrait dire lourdement rapport rationnel, mais en tout cas ce rapport de communication aux autres, il est très concrètement incarné dans des affects. C'est que l'animal humain ou le vivant humain s'identifie de manière quasi amoureuse à ses semblables, hein, perdu en autrui et perdu d'autrui, hein, comme dit très joliment Bourdieu, d'une manière qui est très particulière. Mmh. Parce qu'en effet, peut-être que tout procède d'une détresse originelle et que il nous faut cet étayage d'autrui, il nous faut cette fusion panique en quelque sorte avec autrui pour continuer tout simplement à vivre. Et que on sait très bien qu'un enfant qui a manqué d'amour et d'attachement, comme disent les psychologues, il se laisse mourir. Vous le savez très bien, Frédéric Worms. Les théories de l'attachement nous disent ça.
Alors justement, donc là, on a des théories biologiques. Et puis là, ce que vous soutenez vous-même, Étienne Bimbenet, c'est quand le poète dit « il n'y a pas d'amour heureux », finalement, il universalise. Et l'éthique humaine, pour revenir au contenu de vos livres, de vos thèses fondamentales, la morale humaine, ne consiste pas dans un prolongement continu de l'empathie vitale, mais à un moment, on pose des principes. Il n'y a pas d'amour heureux. C'est une thèse poétique, disons, mais les hommes naissent libres et égaux en droit. Même la protection des animaux, ça suppose le passage à l'universel humain. Le passage par l'universel humain, en tout cas, Étienne Bimbenet.
Ben, c'est vrai qu'il y a un moment où les hommes parlent. C'est-à-dire qu'il y a un moment où les gens, en effet, reconstruisent institutionnellement, hein, dans l'élément de rationnel ou social, ces détresses, ces affects et instituent un monde de sens humain. Alors il s'embraye en effet sur.
Et pour vous c'est
sur...
fondamental, c'est là que commence aussi l'éthique et.
Ah oui, c'est là que commence en effet
la politique.
Absolument, absolument. C'est dans cette construction là que commence véritablement ce qu'il y a spécifiquement humain en nous. Il me semble, mais il ne faut jamais oublier d'où procède cette communication rationnelle et ultimement universalisante. Elle procède d'engagement affectif humain, elle procède d'identification pathique, affective, forte. Il ne faut jamais oublier ça. Il ne faut jamais oublier, par exemple, quand on examine les cultures animales, et qu'on parle de culture animale, d'imitation chez les chimpanzés, on dit, regardez, les macaques de la presqu'île de Koshima au Japon se transmettent l'usage du lavage des patates douces, etc. Oui, mais comment ça se fait? On sait très bien qu'un animal qui imite un autre, en réalité, ne l'imite pas vraiment. Il fonce sur le résultat utile. Ouais. Ils font ce qu'on appelle en psychologie une émulation quant au but, alors que dans un contexte humain, et qui est un contexte essentiellement pédagogique, on s'identifie à l'autre, on réplique chacun de ses gestes, les uns après les autres, et c'est beaucoup plus, alors je dirais pas que c'est plus amoureux, mais en tout cas c'est beaucoup plus fusionnel, et ça engage une toute autre situation.
La modalité de votre démonstration, Étienne Bimbenet, donc de cette spécificité de l'humain, et puis aussi de cette critique du continuisme, hein, qui est la thèse de fond, la modalité de votre démonstration, quel est le plus important pour vous? Là, vous venez d'employer un argument finalement biologique, c'est-à-dire il faudrait le vérifier par une étude, par exemple, de nos cerveaux. Certains ont des neurones miroirs, il y a les facultés d'imitation mises en œuvre concrètement. Est-ce que vous, c'est cette démonstration biologique ou bien est-ce que plutôt vous ne passez pas précisément plutôt par une expérience propre d'abord à l'humain, par le langage, la connaissance, la science? Au fond, est-ce que vous allez vous-même dépendre de la biologie et de ses résultats pour vos thèses ou est-ce que vous n'affirmez pas une coupure plus radicale?
Ben, moi, je crois que l'enquête, alors vous, là, vous parlez de méthode, et c'est important d'en parler.
C'est au cœur de vos livres, hein, c'est-à-dire, au fond, à un moment, il faut choisir. Soit on est du côté du biologique, et d'une manière générale, on sera dans la continuité, soit il y a une coupure, et elle se traduit dans d'autres sciences, les sciences humaines, la philosophie aussi, le fondement de la connaissance. Entre l'animal que je ne suis plus et le complexe des trois singes, il y a eu l'invention du réalisme, c'est un livre de philosophie de la connaissance.
L'enquête, elle doit se mener, elle doit marcher sur deux pieds. C'est-à-dire que si vous prétendez dire quelque chose du rapport entre l'homme et l'animal, si vous prétendez, comme je le fais, montrer qu'il y a ce qu'on appelle une différence anthropologique, ou en enfonçant le clou impropre de l'homme, il faut s'en donner les moyens, et il ne faut pas juste postuler que nous sommes différents par le langage. C'est-à-dire qu'il faut, à ce moment-là, aller chercher du côté de la primatologie.
Donc ça, vous le faites aussi, finalement.
Ah ben oui, c'est très très important. Des cas de comportement d'imitation ou pas, du côté de la psychologie de l'enfant, et comparer pied à pied, très précisément, comme font des gens comme Tomasello, par exemple. Hein, Michael Tomasello est à la fois un primatologue et un psychologue de l'enfant, et c'est, tout ça est très précisément criblé, expérience après expérience, pour voir ce dont est capable un chimpanzé, ce dont est capable un petit homme, et de voir qu'il y a des gestes spécifiquement humains qui ne sont pas exactement les mêmes chez le chimpanzé. Et c'est très important d'enrôler à la fois ce que la biologie de l'évolution ou la psychologie animale nous dit des comportements animaux, et ce que les sciences humaines nous disent de nos comportements.
Donc les neurologues, les éthologues, mais d'un autre côté, les sciences humaines et les philosophes qui viennent d'une certaine façon, d'après vous, confirmer cette rupture depuis l'autre bout. Eux, ils partent de l'humain et ils confirment finalement, d'après vous, il y a une convergence des méthodes, des recoupements, ils confirment cette différence.
Moi, j'essaie de la lire comme ça.
Oui.
C'est un projet, et c'est ce que j'essaie de documenter le plus précisément possible. Simplement, certains iront lire d'autres articles et me diront que non, le geste de pointing, par exemple, le geste de désignation déclarative, qui me semble très spécifiquement humain, ce geste-là, au fond, on le voit faire par certains chimpanzés qui déclarent le monde à l'adresse de leurs congénères. Alors, c'est une question d'interprétation. Il faut argumenter. Je considère que ce geste-là chez le chimpanzé est au fond un geste plus pragmatique que déclaratif, que ça change tout. Et là, il faut discuter pied à pied, mais il faut le faire.
Ça veut dire que pour vous, Étienne Bemnet, donc quand un humain montre un objet à un autre humain, il ouvre un monde objectif entre eux, que les animaux, quand on voit un doigt se tendre d'un chimpanzé vers un fruit ou vers n'importe quel autre objet, ça n'ouvre pas le même type de rapport au monde.
Mais c'est-à-dire que les comportements ne sont pas exactement les mêmes. C'est-à-dire que quand on voit un chimpanzé dans des conditions très particulières d'acculturation, parce qu'il vit dans un laboratoire avec d'autres et qu'il a appris ce geste, quand on le voit faire ce geste, en général, on s'aperçoit que quand on lui donne la chose, hein, une fois qu'il a désigné la chose et qu'on lui donne la chose, il est heureux. Quand un enfant, à partir d'un an et demi, fait ce geste, il regarde en coin la personne à qui il montre la chose, et au fond, il suffit que la mère dise « Ah bah oui, c'est une pomme » pour qu'il soit heureux. C'est-à-dire qu'elle a vu en commun avec lui, il a partagé l'attention avec elle, et ça le rend heureux. Et
c'est l'essentiel pour lui. La connaissance de l'objet, la reconnaissance commune est un but en soi, voilà. Et non pas seulement la consommation ou le but
exactement,
pratique.
Exactement. Et c'est là qu'il sort en quelque sorte d'un rapport pragmatique ou égocentré à la chose, et c'est là qu'il partage le spectacle avec quelqu'un d'autre, et c'est là qu'il s'élargit. Et pour moi, c'est le départ de la raison, précisément.
Vous dites la même chose de beaucoup de phénomènes, finalement, Étienne Bemnet, dont on a longtemps pensé qu'il spécifiait l'humain. On voit ensuite qu'on retrouve des phénomènes comparables apparemment chez les animaux. Et vous dites qu'il faut maintenir la différence. Par exemple, vous parlez aussi de la reconnaissance dans le miroir. On voit des animaux apparemment se voir dans le miroir. Pour vous, c'est pareil, c'est une fausse comparaison. Il y a des comportements spécifiques des humains qui justifient toujours cette discontinuité que vous revendiquez.
Alors, c'est pas que je veux la marquer à tout prix, etc. Mais par exemple, l'expérience du miroir, vous faites allusion ici à des expériences très célèbres
qui ont été
faites. Oui, j'en parle en effet. Oui. C'est important parce que ces expériences menées à partir du début des années 70 par un certain Gallup avec la fameuse tache rouge sur le front du chimpanzé ou d'un éléphant ou même d'un dauphin d'ailleurs. Et une fois que le chimpanzé a compris que la tache rouge qu'il voyait dans le miroir était celle qu'il avait sur son propre front, on conclut en disant, regardez, il a la conscience de soi.
Stade du miroir, comme les enfants dans la psychanalyse traditionnelle.
Absolument. Et moi, ce que je conteste là, c'est pas qu'il puisse se reconnaître dans le miroir, c'est que c'est cette conclusion très hâtive et quasi métaphysique qu'il a la conscience de soi avant même qu'on sache ce que c'est que la conscience de soi. Et là, il y a une espèce de mauvaise métaphysique qui restitue à l'animal ce qu'on lui a dénié pendant des siècles. On dit, regardez, il a la conscience de soi, comme on dirait, il a le langage ou la technique ou la culture avant même de décrire précisément ses comportements. Et quand on s'aperçoit de ce que c'est que la conscience de soi chez un humain, c'est-à-dire une forme d'institution très complexe qui passe par un outil technique comme le miroir, qui passe par le langage, qui passe par des statuts sociaux, qui passe par des identifications. La question, c'est pas de savoir
si... On va trop vite, d'après vous.
Oui, on va un peu vite, et la question serait de savoir précisément, dans un aller-retour entre ce qu'on sait de nous et ce qu'on sait des animaux, La question serait de savoir, est-ce qu'il y a quelque chose comme des institutions, des modes de vie chez le chimpanzé qui instituent quelque chose comme un rapport à soi, en effet, un soi public, plutôt que de dire il a la conscience de soi, comme ça, comme une espèce de d'eureka un petit peu hâtif.
Il a eu ce comportement. Alors, pour vous, Étienne Bamnay, on est passé beaucoup trop vite d'une métaphysique radicale à une autre métaphysique radicale cachée, d'un dualisme que maintenant tout le monde critique dans la métaphysique traditionnelle et que vous ne reprenez pas comme tel. Et puis, maintenant, une idée que nous sommes tous du même bois, si j'ose dire. Nous sommes tous... et cette appartenance commune au vivant, pour vous, fonde une métaphysique implicite du nivellement, finalement, qui ne permet plus de penser les différences. Et vous débusquez cette métaphysique implicite dans le concept le complexe des trois singes. Pour vous, elle est devenue vraiment... elle a remplacé, j'allais dire, la pensée unique, au fond, comme certains disent en politique, mais cette expression a fait beaucoup de dégâts, mais elle a remplacé la métaphysique traditionnelle, bien loin de la destituer.
Ben oui, c'était un renversement du pour au contre, c'est-à-dire qu'on était en effet dans une forme de métaphysique au sens d'une pensée lourdement substantielle. Donc on disait l'homme c'est un vivant qui a en plus une grande substance qui pourrait être la pensée, comme disait Descartes, la raison, le langage, la technique, bon, des grandes substances comme ça mal décrites, mal explorées.
Le rapport à l'être aussi.
Le rapport à l'être éventuellement. Et puis on tourne cette page métaphysique et on dit l'homme n'a pas tout ça. Ou alors par une forme de justice rendue, on dit mais en fait l'animal a toutes ces grandes choses, ces grandes entités, il a la conscience de soi, il a le langage, regardez, il communique, etc. Et de l'un à l'autre, de la métaphysique ancienne au zoocentrisme contemporain, on n'a pas gagné grand-chose en termes de précision, parce que ce qu'il faudrait décrire, ce ne sont pas juste des grandes entités, ce sont des comportements, c'est-à-dire comment se comporte le singe devant son miroir, qu'est-ce qui lui arrive lorsqu'il se reconnaît précisément dans le miroir, plutôt que de dire il a la conscience de soi. Et donc c'est une espèce de métaphysique à l'envers au fond.
Mais
on a sauvegardé ce décor lourdement métaphysique, on l'a juste retourné en son contraire en disant regardez les animaux, ils ont aussi ce qu'on avait avant. C'est pas très fiable, j'irais descriptivement.
Mais Étienne Bamnay, est-ce qu'on peut se passer de métaphysique? Est-ce que vous-même vous revendiquez une métaphysique finalement derrière votre approche? En effet très descriptive au premier abord, avec ces méthodes qui se recoupent et ces faits qui se constatent aussi, des spécificités de l'humain, cognitive en tout cas, morale, politique. Est-ce que vous passez de métaphysique? Est-ce qu'à un moment donné, vous examinez si nous sommes ultimement quand même des vivants, des cerveaux, des animaux, des terriens? Ou bien est-ce que pour vous, il y a encore une dualité métaphysique qui permet d'expliquer cette spécificité des humains?
Alors, je suis content que vous me posiez la question, Frédéric Vance, parce que je vous réponds très clairement que non, je ne suis pas métaphysicien. J'essaye en tout cas de l'être le moins possible dans ce qu'on appelle un univers post-darwinien. C'est-à-dire que nous savons depuis Darwin que nous sommes des êtres de part en part naturels.
Mais ça, c'est une métaphysique. Moi, je l'assume pour ma part, d'ailleurs. Dire que nous sommes tous des vivants, c'est quand même une thèse métaphysique. Pourquoi dire qu'on n'est pas métaphysicien quand on défend une thèse pareille?
Alors, il faut préciser dans ce cas-là le sens du mot métaphysique. Métaphysique en un sens quasi étymologique qui postulerait un au-delà de la nature.
Au-delà, d'accord.
Une autre substance ou un arrière-monde. Moi, je pense que pour penser le vivant humain et le penser bien et le penser précisément, il faut le faire en termes de comportement et de voir que des comportements, on vient de parler du pointé, le pointing, la désignation d'une chose à l'adresse des autres, c'est un comportement spécifiquement humain qui est la première mouture du rationnel en nous, du partage de l'expérience. Typiquement, vous n'avez pas besoin de métaphysique au sens d'un autre monde, d'accord, ou d'un ailleurs ou d'une intériorité pour cela. Et il faudrait arriver à s'en passer, il faudra montrer que des comportements, certains comportements, comme le comportement langagier, par exemple, ou déclaratif, changent tout, en quelque sorte, sans que ce soit la métaphysique.
Donc, il n'y a pas de métaphysique au sens d'un au-delà de la physique, mais vous avez quand même une thèse sur ce qui est ultime pour nous. C'est-à-dire, ultimement, nous sommes des vivants dans ce monde tel que le partagent aussi les autres vivants. Donc, si on entend par métaphysique une thèse sur ce qui est ultime dans notre être, vous en avez une, au fond.
Alors, ce que j'aurais en revanche, peut-être, si je vais dans votre sens, ce serait plutôt un horizon de pensée transcendantal. Alors, si vous voulez des grands mots, en voilà un. C'est-à-dire que quand je montre du doigt une chose à l'adresse des autres, quand je nomme une chose à l'adresse des autres, au fond, mon regard ou mon verbe va jusqu'à l'infini. Si c'est ça que vous voulez me faire dire, je le dirai. C'est-à-dire que ce que je montre du doigt...
Le sens de certains comportements.
C'est-à-dire que je prétends...
Le transcendantal, c'est la recherche de ce sens, finalement.
Non, c'est-à-dire que je prétends, en fait, de manière un petit peu dogmatique, quand je montre quelque chose du doigt ou que je le nomme, je prétends de manière dogmatique et transcendantale que tout un chacun peut voir la même chose que moi, que tout un chacun peut voir ce que je vois. Et là, il y a une assomption universelle, idéalisante, comme on dit, en ce sens que c'est le même pour tous. Cette prétention, cette présomption, cette visée, c'est vrai qu'elle va jusqu'à l'infini, au sens où elle dit, bah, tout un chacun pourrait voir, y compris les animaux. Un animal verrait la même chose que moi. Et là, il y a quelque chose comme un coup de force, une folie très humaine. Alors, j'appellerais pas ça de la métaphysique, mais plutôt un horizon de pensée transcendantale, au sens où je postule
un
de toute force.
Un arrachement, quand même, au vivant comme tel, finalement.
Bah, pour ça, vous, ça, pour le coup, c'est, oui. D'arrachement. Ça, c'est pour le coup, spécifiquement humain, hein. Ça passe par les gestes de désignation et le langage. Ça, pour le coup, c'est spécifiquement humain, mais sans métaphysique, au sens où c'est juste une prétention.
Il n'y a aucune garantie.
Non.
Dans l'être ou quelque part. Ça rejoint quand même, Étienne Mamenet, j'ai cité vos trois livres récents qui construisent quelque chose comme un parcours. Le premier livre, d'ailleurs, s'est en dédoublé finalement, d'une démonstration de philosophie de la connaissance et maintenant une critique de l'idéologie ou du discours sur l'animal dans nos sociétés. Mais antérieurement, vous aviez beaucoup travaillé sur Merleau-Ponty et ce que vous venez de dire fait beaucoup penser à Merleau-Ponty. C'est-à-dire, nous sommes des vivants, mais tout à coup, il y a une déchirure qui apparaît dans notre rapport au monde et cette déchirure ouvre une visée que vous dites ici transcendantale au fond, mais cette déchirure pour vous elle peut apparaître dans n'importe quel fait de langage, dans les mathématiques comme dans la conversation qu'on est en train d'avoir ou dans une conversation ordinaire. Tout à coup il y a une trouée dans notre condition animale qui nous ouvre à autre chose. Malgré tout, c'est ça la transcendance dont vous parlez?
Bah, peut-être que si on voulait spécifier la chose, il faudrait parler de notre condition langagière, par exemple.
C'est là, le langage pour vous, d'abord.
Ah oui, je pense que ça change beaucoup. Mais il faudrait préciser avec Merleau-Ponty, il a cette phrase que je trouve intéressante, quand il dit « tout est naturel en nous et tout est culturel en même temps ». C'est-à-dire qu'en effet, dans nos actes de discussion les plus rationnels, il y a encore du vital, il y a encore des affects, etc. Mais inversement, jusque dans le plus biologique en nous, nos manières de table, de manger, de dormir, etc., il y a du rationnel, il y a du partage de l'expérience, il y a l'élargissement de l'expérience. Et ça me semble intéressant, cette façon non pas de dualiser avec un bas en quelque sorte et un haut, hein. En bas il y aurait les pulsions vitales, en haut il y aurait la raison, parce que ça me semble une forme de topique, hein, de topologie un peu naïve. Mais nous sommes tout entiers vivants en quelque sorte et tout entiers rationnels en ce sens que la raison, le symbolique, traverse la vie humaine.
Mais alors je retrouve votre optimisme sur l'humain, Étienne Mamenet, et je voudrais conclure là-dessus, puisque le temps passe vite, mais il y a quand même une visée de l'humain comme ouverture positive vers l'universel. Est-ce que cet universel de l'humain que je défends tout à fait comme vous, ne vient pas quand même remédier à du négatif dans l'humain, à une précarité de l'humain, dans la maladie par exemple, comme le pense Canguilhem parallèlement à Merleau-Ponty, ou même à la violence entre les humains, qui fait que les humains sont encore plus vivants, parce qu'ils sont encore plus mortels et encore plus exposés à des dangers mortels que les autres vivants. Et donc on invente peut-être l'universel pour progresser d'abord dans la lutte contre la mort et dans des créations vitales. Pourquoi est-ce que ce serait une ouverture uniquement positive? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une réponse à des risques propres aux humains? Est-ce qu'il n'y a pas une spécificité négative de l'humain, Étienne Mamenet?
Ça, c'est une vraie question que je me suis posée dans l'invention du réalisme. J'ai entrevu deux voies pour aller vers l'humain. La voie du négatif dont vous parlez, qui est une espèce de grand arc philosophique qui court de Platon à Heidegger et qui dit « nous sommes exposés à une forme de détresse originelle », ce que Heidegger va appeler l'angoisse face à la mort. Et c'est ce négatif, hein, cette interruption du vital qui appelle, comme une forme de complément ou de supplément, qui appelle le symbolique et le rationnel. Il y a une autre manière de voir les choses, hein, qui est non plus négative, mais communicative, on va dire, et qui est celle que je défends, et c'est plutôt l'idée d'une vie élargie, d'une vie s'élargissant en direction des autres et du monde, d'une vie qui s'augmente en direction d'un monde commun, et qui peut-être, alors, qui du coup produit du négatif peut-être, c'est-à-dire que la vie du coup se transforme en nous, mais je ne dirais pas qu'il y ait une détresse première
en nous. Et si on dit les deux, Étienne Mamenet? Alors, si on dit que la vie communicative répond à la vie mortelle.
Mais la question, c'est qu'est-ce qui vient en premier? Est-ce que c'est la détresse originelle?
C'est peut-être la polarité.
Voilà, peut-être que c'est les deux. Peut-être qu'on peut, on peut se mettre d'accord là-dessus.
Le premier, c'est la relation.
Mais moi, c'est vrai que j'ai tendance à mettre le rationnel d'abord et à dire que nous sommes d'abord des êtres de rapport, de communication, de lien, et que ça produit du coup peut-être une forme de dévitalisation, de négatif, mais qui vient en plus, si vous voulez. Alors qu'une autre façon de voir les choses serait de dire, nous sommes des animaux en détresse, en quelque sorte, hein, néoténiques, comme on dit, c'est-à-dire
précaire, fragile,
venu au monde trop tôt, et c'est la culture, c'est le langage, c'est le lien interhumain qui vient pallier cette déficience première.
Merci beaucoup de votre ouverture universelle, Étienne Mamenet.
Merci à vous.
Matière à penser, animal humain, c'était notre cinquième conversation ce soir avec Étienne Mamenet, avec et grâce aussi à Sébastien Royer. Justine Wild, Sandrine Chaperon, Catherine Donnet, Anne-Pascale Devine, Frédéric Worms. Je vous donne rendez-vous, ou plutôt je transmets le micro, dès lundi prochain, à René Friedman. À bientôt.